Me voici pour louer. Est-ce que vous êtes là pour louer? Amen. Parce que nous avons un grand Dieu qui est mort et ressuscité pour notre rédemption. C'est merveilleux, non? Se rappeler cette réalité, c'est juste grand, c'est juste extraordinaire. C'est beau tous ces chants. Merci Jean-Luc pour ces beaux partages aussi. Ça nous encourage, et l'Église est le corps de Christ, et nous sommes là pour vivre ensemble, nous aimer ensemble et marcher avec Jésus. Alors depuis, on va commencer durant ces mois un thème sur la vie de disciple. Qu'est-ce qu'une vie de disciple? Et ce thème, je l'ai déjà commencé, et Alexandre aussi d'ailleurs, on a fait deux messages sur ce thème déjà. Et le dernier message que j'ai fait, qui est le préliminaire, le premier message pour comprendre la vie de disciple, c'est de comprendre la volonté ultime de Dieu pour l'être humain. Je ne sais pas si vous vous rappelez quelle est la volonté ultime de Dieu pour l'être humain. Dans le message que j'avais fait, quelqu'un s'en rappelle? Sinon, je retourne me coucher. C'était dans Jean 14, où Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » C'est quoi la volonté de Dieu ultime? Vérité, oui, plus que ça. Que nul ne peut venir au Père que par moi. La volonté de Dieu, c'est que nous venions au Père. Que nous soyons dans la maison du Père et que nous soyons unis de manière intime avec le Père. Que nous ne fassions qu'un avec le Père et le Fils. Et ce plan, Dieu l'a formé en lui de toute éternité, avant qu'aucun de nous ait pu faire quoi que ce soit. Donc, nos mérites sont exclus. C'est un choix souverain de Dieu. Et il l'achèvera, ce plan, il l'achèvera pour la fin des temps et pour l'éternité. Amen. Il a confié la réalisation de ce plan grandiose à son fils Jésus, qu'il a envoyé pour accomplir ce plan sur la terre. C'est-à-dire donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Et la vie éternelle, c'est quoi? Jésus nous dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je ne suis pas le diaporama. Ça ne marche pas. Voilà, tu peux juste revenir en arrière un coup. Je suis déjà trop loin en fin de compte. L'objectif et la stratégie de Jésus, AEFE. Ça vous dit quelque chose? Non. C'est pas grave. Mais à la fin du message, ça vous dira quelque chose. Enfin, j'espère. J'espère. Nous allons voir ce matin, ensemble, l'objectif et la stratégie de Jésus pour mener à bien sa mission. Comment Jésus va s'y prendre? Et on va lire ensemble maintenant, je vais revenir en arrière, j'ai mal ordonné, voilà. On va lire un passage dans Marc, l'évangile de Marc au chapitre 3. On va lire les versets 13 à 19. Dans ce passage, Marc nous résume vraiment merveilleusement, de manière simple, l'objectif et la stratégie de Jésus. Je lis donc pour vous, à partir du verset 13 de Marc 3. Il monta ensuite sur la montagne, il appela à lui ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12, afin qu'ils soient avec lui et afin de les envoyer prêcher et avec le pouvoir ou l'autorité de guérir les maladies et de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre », André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. C'est un peu étonnant, juste une petite parenthèse, de voir que Judas Iscariote, un disciple que Jésus a choisi, mais pourtant, Judas va livrer Jésus. Ça aussi, on ne comprend pas toujours les plans de Dieu. Il est Dieu et il sait ce qu'il fait. Je reviens donc. Alors dans ce passage, nous voyons donc la stratégie de Jésus de manière toute simple, A-E-F-E. Le A veut dire quoi ? Appeler. Appeler. La première chose, c'est appeler. La deuxième ?
Envoyer.
Non, c'est après, c'est après. Non, c'est aussi dedans, mais c'est pas dans le texte, c'était pas ça. Établir, fonder. La troisième chose, je l'ai déjà entendu, alors j'ai mis un autre mot, mais ça rejoint ce qui a déjà été dit. Former, ouais, c'est ça. Ouais. Former, enseigner, voilà. Conduire. Et le dernier ? Envoyer. La stratégie de Jésus est toute simple. Appeler, établir, former et envoyer. Alors envoyer, on l'a déjà vu. Qui s'en rappelle ? Avec Alexandre, on l'a déjà vu envoyer avec les versets. Quelqu'un s'en rappelle ? Matthieu 28, verset. Ouais, à la fin. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer. On retrouve la même chose. Hein? Et l'ordre ici, c'est l'ordre de Jésus. Dans Matthieu 28, l'ordre semble renversé, mais non, puisque ceux à qui s'adresse Jésus, il vient de les former. Donc, le texte de Matthieu doit être mis dans son contexte et comprendre qu'on arrive au dernier point de la stratégie de Jésus. C'est le dernier point, envoyer. Et c'est important, parce que si on part annoncer l'Évangile, mais sans être passé par les trois autres points, ça ne servira pas à grand-chose. Hein. Et on va se tromper de direction. La naissance de l'Église, la famille de Dieu. Alors que la renommée de Jésus grandit sans cesse, une grande multitude accourt de tous les côtés et vient entourer Jésus. Et très rapidement, dans l'évangile de Marc, quand vous lisez, apparaît au sein de cette multitude un petit groupe, tout d'abord 4 personnes, après un 5e, on a vu maintenant 12, de personnes qui s'attachent à Jésus et qui vivent dans son intimité. Ce sont les disciples du Seigneur, de Jésus. Les disciples de Jésus. Et Marc, dans son évangile, fait une distinction très claire, évidente, entre d'un côté les disciples de Jésus et de l'autre la grande multitude. Et on le lit déjà dans Marc 3 au verset 7, donc juste un peu avant notre passage, Marc écrit « Jésus se retira vers la mer avec ses disciples et une grande multitude suivit Jésus, une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vint à lui. » Marc souligne la proximité et l'intimité des disciples avec Jésus. Ce sont ses disciples, les disciples de lui, les siens. Le reste de la foule est beaucoup plus distant, marche beaucoup plus loin de Jésus. Ils sont là, mais beaucoup plus loin. Et généralement, ils le suivent, comme on a vu dans le texte, par intérêt et curiosité, parce qu'ils ont appris tout ce que Jésus faisait, ce qu'il faisait, pas ce qu'il disait. Le texte dit ce qu'il faisait, ce qui veut dire qu'ils étaient intrigués, ils étaient curieux. Et on voit aussi dans le texte, juste un peu avant notre passage, que les gens viennent pour être guéris. Il y a une hystérie collective où les gens se jettent carrément sur Jésus pour le toucher, pour être guéris. Cette communion étroite entre Jésus et ses disciples est visible aux yeux de tous. Tout le monde voit l'intimité des disciples avec Jésus. Les disciples de Jean, Jean le Baptiste, et les pharisiens, par exemple, disent à Jésus « Tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Donc, ils voyaient bien ce petit groupe. Tout le monde le voyait. C'était évident. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Souvent, quand on lit le texte, et moi aussi, hein, quand je lisais le texte, mais maintenant, en l'étudiant, en approfondissant le texte, je me suis rendu compte à quel point on vivait à ce moment-là un moment exceptionnel. Un moment exceptionnel. C'est la naissance de l'Église. La naissance de l'Église. Au milieu de l'humanité pécheresse qui s'est détournée de Dieu, se produit une chose incroyable. Incompréhensible, Jésus appelle 4 personnes, 12 après, à le suivre et ces personnes répondent présents et obéissent à l'appel souverain de Jésus. Les disciples de Jésus sont la famille, sont devenus la famille spirituelle de Jésus. Ils sont enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Par la venue de Jésus, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. En répondant favorablement à l'appel de Jésus, et en se soumettant à lui en le suivant, les disciples ont débuté leur entrée dans le royaume de Dieu. Jésus pose les premières pierres du royaume de Dieu, de son Église. La vision du salut que Jésus présente, et c'est intéressant de voir comment Jésus présente le salut. Souvent, nous avons nous-mêmes des visions du salut de Jésus, où nous nous faisons une image de ce qu'est le salut. Mais est-ce que c'est la bonne vision? Souvent, on a souvent l'idée, voilà, quand il y a une réunion, une évangélisation, hein, quand Alexandre fait une évangélisation, voilà, il fait un appel, et il y a des gens qui lèvent la main, et voilà, ils sont sauvés. Ça, c'est le salut. On est sauvés, et maintenant, on attend le retour de Jésus, et voilà, tranquillement, on a le bon ticket en poche, et c'est bon, je reste chez moi, inactif. Mais Jésus, il vient renverser ces raisonnements. Jésus vient les renverser parce que Jésus présente le salut comme une vie de disciple. Une vie de disciple qui vient pour emmener des gens avec lui, dans l'intimité avec lui, et qui vient pour les former continuellement, pour les amener à lui ressembler chaque jour davantage et pour arriver au bout du salut. Parce que le salut s'accomplira et sera fini quand Jésus reviendra. Le salut est un processus dans lequel j'entre comme une vie de disciple où je vais suivre Jésus. Je vais obéir à Jésus parce qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et qu'en réponse à son amour, je vais me donner entièrement comme l'ont fait les disciples. Le mot disciple vient d'un verbe qui signifie apprendre ou étudier. Il évoque une personne qui s'attache à un maître et suit son enseignement. Dans certains cas, le disciple peut même aller jusqu'à quitter son environnement et sa famille pour vivre concrètement et totalement avec son maître comme le font les premiers 4 disciples et même les 12. Ils vont tout laisser pour suivre Jésus. Et le but ultime du disciple, ce n'est pas sa gloire à lui, ce n'est pas qu'il soit béni par son maître, qu'il reçoive plein de bénédictions. Le but ultime du disciple, c'est de ressembler à son maître, de devenir comme son maître. C'est ça dont il rêve le plus. Et c'est ce qui fait son bonheur. Et c'est ce pourquoi il va consacrer sa vie. Nous pencher donc sur l'appel des 12 disciples, c'est chercher à mieux comprendre et ainsi mieux vivre ce qu'est un vrai disciple selon Jésus. Et c'est ce qu'on va entreprendre maintenant ensemble ce matin. Le premier point qu'on va voir, c'est l'appel souverain de Jésus. Il monta ensuite sur la montagne, il appela à lui ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Le disciple est choisi par Jésus. Dans ce verset, nous pouvons constater que c'est Jésus qui prend l'initiative et non les disciples. c'est lui qui va appeler de son propre choix souverain ceux qu'il a choisis, lui, au milieu de la foule. Jésus n'a pas appelé la foule. Ce qui vient contredire le salut universel, où Jésus sauve tout le monde, hein, on ira tous au paradis. Non, Jésus n'appelle pas toute la foule. Mais il a choisi au milieu de la foule ceux qu'il a voulu et il les a appelés. Tout cela nous rappelle que Jésus est Dieu, qu'il est souverain sur toute chose. C'est lui qui a le contrôle et l'autorité souveraine sur tout ce qui existe. Ce ne sont pas les disciples qui choisissent Jésus, mais Jésus qui choisit ses disciples. Et heureusement qu'il en est ainsi. Non ? Vous ne trouvez pas ? Heureusement. Parce que si ce choix dépendait de nous, humains, on serait mal orienté, hein, on serait mal parti. Parce que les choix humains, vous ne le savez peut-être pas, mais sont incertains et changeants. Vous en voulez une preuve ? Regardez le nombre de divorces. Regardez le nombre de divorces qu'on voit aujourd'hui. Et vous vous rendez compte que les choix humains, on ne peut pas se fier à l'homme. Et donc, le simple fait de savoir que c'est Dieu qui m'a choisi, que c'est Dieu qui appelle, est pour tout disciple une source de paix, une source de paix intarissable, parce que je sais que Dieu ne ment pas. Je sais que Dieu ne change pas d'avis. Il ne me dira pas dans quelques jours, « Ah Victor, maintenant je ne t'aime plus, j'ai changé d'avis. Tu ne m'apportes plus rien, maintenant je vais passer à un autre. Je ne m'épanouis plus avec toi, tu ne respectes plus ce que j'aime, maintenant je t'enlève. » Et j'en prends un autre. Non, il ne dira pas ça. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et Dieu est fidèle, même si nous, si moi, je suis infidèle. Quel privilège d'être appelé par Dieu. Quel privilège et quelle responsabilité aussi. La réponse de l'homme, on a lu avant, il appela à lui les 12, ceux qu'il voulut, et ils vinrent à lui. La souveraineté de Dieu n'exclut pas la réponse de l'homme. L'homme est libre de ses choix, même si Dieu est souverain. C'est des choses qu'on a du mal à comprendre, mais on le voit dans ce verset. Dieu est souverain. C'est lui qui décide souverainement, avant même la fondation du monde, qui il va choisir et qui il va emmener, mais l'homme qu'il appelle doit répondre et doit se donner à la volonté de Dieu librement. La réponse favorable des disciples met en valeur l'autorité qu'ils accordent à Jésus sur leur vie. Les disciples font le choix de dire oui à Jésus et de le laisser diriger leurs pas. Ils laissèrent tout et le suivirent, est-il écrit dans Luc 5, verset 11. Ils entrent ainsi dans le projet de Dieu. Ils entrent dans le projet de Dieu. Ils quittent leur vie de désobéissance, de rébellion, et ils retournent dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Waouh ! Quel changement ! Et ce choix radical que font les disciples, ce choix radical qu'ils font, démontre aussi leur repentance et leur foi en Jésus, qui est la bonne nouvelle que Dieu a envoyée aux humains. En cela, ils obéissent aux paroles de Jésus, qui a dit au début de l'évangile de Marc, qui a lancé son message, le message qu'il apporte à toute l'humanité et à nous ce matin aussi. Repentez-vous, changez vos comportements et croyez à la bonne nouvelle, croyez en Jésus-Christ. Un lien profond et éternel se crée entre Jésus et ses disciples. L'appel de Jésus est convaincant et puissant. L'impact qu'il produit sur les disciples est stupéfiant. Quand on voit comment Simon, André, Jacques et Jean ont répondu à l'appel de Jésus, ils ont tout laissé, tout. Leur commerce, leur famille, leur vie, ils ont tout laissé. Et ils ont suivi Jésus. Impressionnant, impressionnant de voir la puissance de l'appel du Christ. De toute évidence, à ce moment-là, un lien profond et éternel se crée entre Jésus et ses disciples. Même si les disciples n'en ont pas forcément conscience. Marc, en employant très souvent l'expression « les disciples de Jésus », souligne aussi qu'il y a un lien d'appartenance très fort entre Jésus et ses disciples. Les disciples appartiennent à Jésus. Quelque chose de surnaturel s'est produit qui dépasse l'intelligence humaine. Ce lien n'est pas d'origine humaine, mais divine. Il surpasse de loin tous les liens humains qui existent. Il est même plus grand et plus puissant que les liens familiaux que nous avons sur la terre, qui sont les liens les plus forts. Dans l'évangile de Marc, justement, un peu après notre passage, nous lisons dans Marc 3, versets 32 à 34, « La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, donc sur ses disciples, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. » Quand nous regardons avec le recul la vie des 12 disciples que Jésus a appelés, excepté Judas, nous pouvons constater que malgré toutes leurs imperfections et tous leurs échecs, leurs mauvais choix, Pierre a renié Jésus 3 fois. Malgré toutes les difficultés et toute l'adversité qu'ils vont rencontrer, le lien que Jésus a créé et suscité entre eux ne s'est jamais rompu. Qu'il est rassurant aussi pour nous, disciples de Jésus-Christ, de savoir que ce lien qui m'unit à Jésus ne vient pas de moi, mais c'est l'amour de Dieu. Et que ce lien est impérissable, est indestructible et que ce lien demeurera pour l'éternité. C'est pourquoi nous pouvons proclamer ensemble, comme l'apôtre Paul l'a fait dans Romains 8, versets 38 à 39, « Car j'ai l'assurance, dit Paul, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Amen. Amen. Le deuxième point, Jésus établit ses disciples. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser des démons et de guérir les maladies. Il en établit 12. Les disciples sont les prémices de la nouvelle création. Établir, c'est poser solidement quelque chose. C'est mettre en place quelque chose qui va durer dans le temps. Et je pense ici, immédiatement, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai pensé à la création du monde. À la création du monde. Quand Dieu a établi le ciel et la terre par la puissance de sa parole créatrice. Dieu a dit et les choses ont existé. Et ces choses étaient établies avec force, avec la puissance de Dieu. Et ces choses sont là, inébranlables. Et de la même manière souveraine, par son autorité et sa toute-puissance, Jésus est en train de poser les fondements de la nouvelle création. Il se produit à ce moment quelque chose d'exceptionnel. Ces 12 premiers disciples sont les prémices de la nouvelle création, une création libérée du péché où Dieu règnera sur toute chose. Je pense à ces paroles du livre de l'Apocalypse au chapitre 21, quand l'apôtre Jean voit un nouveau ciel et une nouvelle terre, et il est écrit dans Apocalypse 21, verset 5, « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et cette nouvelle création qui s'achèvera à ce moment-là a commencé, a débuté avec l'appel de ces 12 premiers disciples qui sont les premières créations de cette nouvelle création. Les disciples, une nouvelle identité et des nouvelles capacités. Jésus établit ses disciples en leur donnant une nouvelle identité et une nouvelle capacité. Jésus a fait d'eux des créatures nouvelles, libérées du péché et réconciliées avec Dieu. Et il leur fera cette promesse extraordinaire après sa résurrection, avant de monter au ciel. Il leur dira, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ces choses ne sont pas encore présentes au moment où on lit le texte, mais elles sont en devenir. Elles sont en train de se créer. Jésus est en chemin vers la croix, où il accomplira l'œuvre rédemptrice qui fera de tout disciple un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Amen. Et c'est dans le livre des Actes, dans Acte 2, que se produit ce moment extraordinaire pour les disciples, les premiers disciples, parce qu'ils vivaient un temps particulier, que nous, on ne vit plus. Aujourd'hui, quand on vient à Jésus, on reçoit directement le Saint-Esprit, puisque Jésus a tout accompli. Mais les premiers disciples vivaient un temps particulier. Et dans Acte 2, se produit ce moment où ils vont recevoir et être remplis du Saint-Esprit. Jésus revêt aussi ses disciples de son autorité. Avec le pouvoir de guérir des maladies, toutes les versions n'ont pas forcément cette phrase, et de chasser les démons. Mais les deux sont donnés par Jésus et appartiennent à l'autorité que Jésus donne à tout disciple. Jésus revêt donc ses disciples de son autorité. Du fait que le disciple appartient à Jésus, il est engagé dans un combat spirituel féroce contre les puissances maléfiques. Et Jésus leur donne son autorité pour être au-dessus de toutes ces puissances. Le disciple est revêtu de la puissance de Jésus. Et Jésus a montré qu'il avait autorité sur les disciples. Dans Marc 3, verset 11, donc juste avant notre passage, Marc écrit « Les esprits impurs, donc tous ces démons, quand ils le voyaient, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Donc le disciple n'a pas à avoir peur de tout ce monde satanique, il n'a pas à avoir peur de Satan qui va attaquer. Mais celui qui est en lui est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Il faut que j'avance, l'heure passe. Troisième point, c'est bon. C'est le dernier point, après il y a quand même la conclusion. Jésus forme ses disciples. Il en établit 12. Afin qu'il soit avec lui. Vous remarquerez qu'il y a un ordre. Dans les raisons pourquoi Jésus a établi ses disciples, il y a un ordre. D'abord, premièrement, c'est pour qu'il soit avec lui. Et ça, c'est la raison principale, essentielle. Et la deuxième raison, la suite, afin de les envoyer prêcher est la conséquence de la première. Et on ne peut pas renverser les deux. Parce que si vous allez prêcher sans venir à Jésus, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Et des fois, on peut être tenté par ça. Et des fois, même les églises peuvent pousser les gens à ça. À peine les gens sont convertis, hop, qu'on les envoie évangéliser. Et on oublie que d'abord, il y a venir à Jésus, être enseigné par Jésus pour comprendre ce qui se passe. Donc le premier point, c'est Jésus aime ses disciples, il veut les avoir avec lui. Pourquoi Jésus appelle ses disciples ? Pourquoi ? Parce qu'il les veut auprès de lui. Qu'est-ce que ça veut dire quand on réfléchit ? Ça veut dire quoi, ça ? Quand on aime quelqu'un, on veut l'avoir auprès de lui. Non ? C'est logique. Si j'aime quelqu'un et je lui dis, écoute, moins on se voit, mieux je me porte. C'est peut-être ce qu'on dit aujourd'hui. Peut-être, parce qu'aujourd'hui, les pensées sont tellement renversées que
y a tellement d'erreurs dans ce qu'on pense, mais normalement, en toute logique, pour un esprit sensé, quand on aime quelqu'un, on le veut auprès de lui. Et là, on voit que Jésus aime ses disciples. Jésus aime ses disciples. Et quelque chose d'important à prendre en considération, c'est que Jésus nous a, ou Jésus t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi, pour t'avoir auprès de lui. Est-ce que tu es conscient de ça? Jésus t'a tellement aimé. Repense à ça. Laisse rentrer ça. Jésus t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Il a tout sacrifié pour toi. Jésus aime ses disciples. Il veut qu'ils soient comme lui. Il veut qu'ils soient comme lui. C'est Paul qui écrit dans sa lettre aux Romains, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Jésus te veut auprès de lui parce qu'il t'aime, mais il ne te laissera pas comme tu es, parce qu'il t'aime trop pour cela. Il veut te transformer. Et tu as besoin d'être transformé. Tu as besoin de sanctification. Alors quand on vient à Jésus, nous sommes sanctifiés. On est tout de suite unis à lui et on est tout de suite une nouvelle créature. Nous appartenons à Jésus. Mais sanctifié a aussi un deuxième sens qu'il ne faut jamais oublier. C'est qu'on doit encore être transformé. On n'est pas arrivé au bout. Il y a un chemin devant nous. Et donc on a besoin continuellement, parce qu'on est animé par l'Esprit de Dieu, parce qu'on a conscience de l'amour que Dieu nous a témoigné, nous avançons pour ressembler à Jésus. Et c'est le but que Jésus poursuit pour nous, et c'est merveilleux. Il veut nous amener à ressembler à Jésus. Vous vous imaginez, Jésus, c'est la perfection. Quand vous voyez Jésus, la beauté de Jésus, Dieu a comme projet de nous faire ressembler à Jésus. Waouh, c'est une bonne nouvelle, non? Bof. Je sens pas trop que c'est une bonne nouvelle, non? Chérie, il faudra que je te reparle après. Les disciples sont à l'école de Jésus. Un disciple est à l'école et il apprend, il a besoin d'apprendre. C'est Jésus qui, dans Jean 6, dira « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Mes bien-aimés, nous sommes sauvés, nous sommes avec Jésus. Mais tu as besoin de lire, de te nourrir de la parole de Jésus. Ce n'est pas une option facultative, parce que c'est à travers sa parole, avec l'œuvre du Saint-Esprit, parce que tu crois à cette parole, que cette parole va être esprit et vie en toi. Elle va redonner vie à tout ce qui est mort. Elle va provoquer une résurrection dans ton cœur. Les blessures, tout ce que tu as été détruit, tout ce que l'ennemi t'a volé, Jésus va le restaurer. Dans l'Ancien Testament, il y a une image où le prophète Ézéchiel voit une vallée remplie d'ossements, de mort. Ça pue la mort. Il n'y a plus que les os, rien d'autre. Et Jésus vient, Dieu vient et souffle. Et il rassemble ses os et il redonne la vie et une armée nombreuse se lève. C'est ce que Jésus veut faire en toi. Ton cœur est mort à cause du péché. Satan a détruit plein de choses en toi, mais la parole de Dieu que tu vas lire et recevoir avec foi par la puissance du Saint-Esprit va redonner vie à tout ce qui est mort en toi. Amen. Et c'est Pierre aussi qui, en répondant à Jésus, Jésus qui demande, il y a beaucoup de disciples qui s'en vont. Alors, il y a aussi les vrais disciples et les faux disciples, hein, il y a les deux. En tout cas, il y en a beaucoup qui s'en vont, qui quittent Jésus, parce que ses paroles sont trop dures, ses paroles sont trop difficiles. Et alors, Jésus pose la question à ses 12, « Vous voulez aussi partir? Vous voulez aussi me quitter ?» Et Pierre répond, « Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Les paroles de Jésus sont la vie éternelle. Si tu les reçois avec foi, cette vie éternelle, cette relation avec Dieu, cette connaissance de Dieu va se développer et grandir en toi. Amen. Et donc, cette école est importante, nécessaire. Prendre du temps avec Jésus. Conclusion. Je vous vois souffler là. Et maintenant, le Saint-Esprit, l'indispensable présence. L'exemple des disciples que nous avons dans l'évangile de Marc nous montre avec force qu'il est impossible de vivre une vie de disciple avec ses propres forces. C'est impossible. Les disciples ont échoué sur toute la ligne. Ils ne comprenaient pas les paroles de Jésus. Ils ont désobéi. Ils se sont plantés constamment. Et finalement, ce qui se révélait, c'est qu'ils étaient incapables d'entrer dans le royaume de Dieu. Et le point culminant de leur échec, c'est le triple reniement de Pierre. Pierre qui avait dit à Jésus, « Moi, je te suivrai partout, même jusqu'à la mort. Même à la mort, je ne t'abandonnerai pas. » Eh bien, Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Et ça, nous devons le comprendre. Nous ne pouvons pas suivre Jésus avec nos propres forces. Mais devant l'échec des disciples, quand Pierre est abattu, quand Pierre s'est rendu compte qu'il ne pourra pas par ses propres forces suivre Jésus, il devait être abattu, complètement désespéré, au bout du trou, tout au fond, au fond, au fond. Et c'est à ce moment-là que Jésus va déployer la puissance de son amour. C'est à ce moment-là que Jésus va aller mourir sur la croix. Pour rendre l'impossible possible. Et Jésus a accompli ce qu'aucun homme ne peut accomplir. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il a fait de nous une nouvelle créature remplie du Saint-Esprit. Comment suivre Jésus aujourd'hui ? L'exemple de Marthe et de Marie. Luc 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule à servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Que faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut être Marthe et courir, faire pour Jésus ? On fait pour Jésus. Marthe le faisait sûrement pour Jésus. Enfin, pas forcément. Elle avait d'autres préoccupations derrière qui la poussaient à travailler. En tout cas, Jésus lui dit, Marie a choisi la bonne part. C'est Marie qui a choisi la bonne part parce qu'elle est au pied. Quand Jésus est entré dans sa vie, dans sa maison, elle s'est mise au pied de Jésus pour entendre son enseignement. Elle prend du temps, elle libère du temps dans son agenda pour écouter Jésus parce que Jésus est important pour elle, parce que Jésus est le Seigneur de sa vie. Elle prend du temps pour écouter Jésus. Les premiers disciples étaient constamment et continuellement avec Jésus. Jésus occupait la totalité de leur vie et de leurs préoccupations. Jésus était le principal sujet de leur échange. Cette communion avec Jésus était visible par tous ceux qui les entouraient. Jésus, rappelez-vous, Jésus voulait tellement nous avoir auprès de lui qu'il a donné sa vie pour nous. Il voulait tellement nous avoir avec lui. Quelle place occupe Jésus dans ta vie? Regarde ta vie, laisse-toi sonder. Quelle place occupe Jésus? Est-ce que je prends du temps pour Jésus, pour lire sa parole, pour méditer sa parole, pour rencontrer Jésus et me laisser enseigner par lui? Réfléchissons, laissons-nous sonder par Dieu et que Jésus vienne pour nous ramener à lui. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et croyez en Jésus. Amen. Je mettrai derrière des feuilles avec le résumé du message. Donc ceux qui veulent refaire ce message à la maison, et je vous encourage vivement, vous pouvez prendre les feuilles et vous pourrez vous rappeler ce que j'ai dit et méditer là-dessus. Donc servez-vous. S'il n'y en a plus, on pourra faire des photocopies derrière. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Seigneur, fais de nous des disciples. Seigneur, entraîne-nous après toi. Enlève tous les lits dans lesquels nous dormons. Enlève tout ce qui nous sépare de toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, oui, par ton esprit, viens. Viens nous visiter ce matin. Viens parce que tu es vivant et tu le mérites. Seigneur, pardon. Pardon pour ma tiédeur. Pardon pour tout ce qui m'occupe et qui n'est pas toi. Pardon, Seigneur, pardon. Seigneur, oui, je veux me tourner vers toi, pardon. Viens me réveiller, viens me remplir de ton amour. Viens m'attirer à toi, Seigneur Jésus, et laisse-moi m'abandonner à toi. À toi toute notre louange et notre adoration. Amen.